Quelques mots à propos des chiennes. Dans un tas de prisons, on les appelle les folles ou les reines de la tôle. Le dernier mot à la mode, c'est les tueuses. Mais à Shawshank, on a toujours dit les chiennes. Je sais pas pourquoi. À part le nom, je pense que c'est du pareil au même. Aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas surpris d'apprendre qu'il y a pas mal d'enculage derrière les barreaux. Sauf quelques nouveaux, peut-être, ayant le malheur d'être jeunes, minces, beaux et sans méfiance. Mais l'homosexualité, comme le sexe normal, prend des centaines de formes et de styles. Il y a des hommes qui ne supportent pas d'être privés de sexe et qui se tournent vers un autre homme pour ne pas devenir cinglés. Généralement, ce qui en résulte est un arrangement entre deux types fondamentalement hétérosexuels, bien que je me sois parfois demandé s'ils l'étaient autant qu'ils l'avaient cru, le jour où ils retrouveraient leur femme ou leurs petites amies. Il y a aussi des hommes qui ont tourné en prison. Dans le jargon actuel, ils deviennent gays ou sortent du placard. La plupart, mais pas tous, jouent la femme et on se dispute férocement leur faveur. Et il y a les chiennes. Ils sont à la société des prisons ce que le violeur est à la société hors les murs. D'habitude, ce sont des longues peines, des types qui se mangent des dizaines d'années pour des crimes violents. Ils s'attaquent aux jeunes, aux faibles, aux inexpérimentés, ou bien, dans le cas d'Andy, à ceux qui ont l'air faibles. Leurs terrains de chasse sont les douches, le passage étroit comme un tunnel derrière les machines industrielles de la blanchisserie, quelquefois l'infirmerie. Il y a eu plus d'une fois des viols dans la cabine de projection grande comme un placard derrière l'auditorium. Ce que les chiennes prennent de force, ils pourraient le plus souvent l'obtenir librement, s'ils le voulaient. Ceux qu'ils ont rejetés semblent avoir le béguin pour l'une ou l'autre chienne, comme les adolescentes avec leur Sinatra, Presley ou Redford. Mais le plaisir, pour les chiennes, est toujours de les prendre de force. Et je crois qu'il en sera toujours ainsi. À cause de sa petite taille et de sa belle allure, et peut-être même aussi à cause de cette maîtrise que j'admirais en lui, les chiennes se sont mises après Andy du jour où il est arrivé. S'il s'agissait d'une sorte de conte de fées, je vous dirais qu'Andy s'est battu victorieusement jusqu'à ce qu'il le laisse tranquille. J'aimerais pouvoir le dire, mais je ne peux pas. La prison n'est pas un conte de fées. Pour lui, la première fois a eu lieu dans les douches, moins de 3 jours après qu'il se fût joint à notre heureuse petite famille de Shawshank. Juste pas mal de claques et de chatouillis cette fois, d'après ce que j'ai compris. Ils aiment à prendre votre mesure avant d'y aller pour de bon, comme des chacals s'assurant que la proie est aussi faible et démoralisée qu'elle en a l'air. Andy s'est rebiffé et a fendu la lèvre d'une chienne, un granat costaud nommé Box Diamond, parti depuis longtemps Dieu sait où. Un garde a coupé court avant que ça n'aille plus loin, mais Box a promis de l'avoir. Et Box l'a eu. La seconde fois, ça a été derrière les machines à laver, dans la blanchisserie. Il s'en est passé au cours des ans dans ce réduit étroit, poussiéreux et tout en longueur. Les gardes le savent et ils laissent faire. C'est à peine éclairé, jonché de sacs de lessive et de javel, de barils d'ex-light, un catalyseur inoffensif comme de l'eau si on a les mains sèches, féroce comme de l'acide si elles sont mouillées. Les gardes n'aiment pas y aller. Il n'y a pas la place de manœuvrer. Et une des premières choses qu'on leur apprend quand ils viennent travailler dans un endroit comme celui-ci, c'est de ne jamais laisser les tôlards les coincer dans un endroit où ils ne peuvent pas reculer. Ce jour-là, Boggs n'y était pas, mais Henley Backus, qui était contremaître à la blanchisserie depuis 1922, m'a dit que 4 de ses amis étaient venus. Andy les a tenus quelque temps en respect avec une poignée d'ex-light, menaçant de la leur lancer dans les yeux s'ils s'approchaient. Mais il a glissé en essayant de contourner une des grandes Wachex à 4 portes. C'était tout ce qu'il leur fallait. Ils lui ont sauté dessus. Je ne pense pas que le viol collectif change beaucoup d'une génération à l'autre. C'est ce que lui ont fait ces 4 chiennes. Ils l'ont plié en 2 sur un boîtier de vitesse, l'un d'entre eux lui a tenu un tournevis contre la tempe pendant que les autres lui faisaient son affaire. Ça vous déchire un peu, mais pas trop. Est-ce que je parle d'expérience, demandez-vous. J'aimerais bien répondre que non. On saigne un bout de temps. Si on ne veut pas qu'un crétin vous demande si vous avez vos règles, on se fait un tampon de papier cul et on le garde dans son slip jusqu'à ce que ça s'arrête. Le saignement fait vraiment comme des règles. Il dure 2 ou même 3 jours, un mince filet de sang. Et puis ça s'arrête. Pas de mal, sauf s'ils vous ont fait quelque chose d'encore plus contre nature. Pas de mal physiquement, Mais un viol est un viol. Éventuellement, il faut à nouveau se regarder dans la glace et décider ce qu'on va faire de soi. Seul, comme pour tout ce qui lui arrivait à cette époque, Andy en est passé par là. Il a dû en venir à la conclusion que d'autres avaient atteinte avant lui. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux façons de faire avec les chiennes. Se battre et se faire avoir, ou simplement se faire avoir. Il a décidé de se battre. Quand Boggs et deux de ses copains l'ont cherché, environ 15 jours après l'incident de la blanchisserie, « Pareil que t'as été débouché », a dit Boggs, d'après Ernie, qui était dans les parages. Andy est allé à la castagne. Il a cassé le nez d'un type qui s'appelait Rooster McBride, un fermier pansu condamné pour avoir battu à mort sa belle-fille. Rooster est mort, ici. Je suis heureux de pouvoir le dire. Ils l'ont pris, tous les trois. Quand ça a été fini, Rooster et l'autre œuf, c'était peut-être Pete Verness, mais j'en suis pas complètement sûr, ont forcé Andy à s'agenouiller. Box Diamond s'est mis en face de lui. En ce temps-là, il avait un rasoir à manche de nacre avec les mots Diamond Pearl gravés des deux côtés du manche. Il l'a déplié. « Maintenant, je vais ouvrir ma braguette, monsieur le mec, et tu vas avaler ce que je vais te faire avaler. Et quand t'auras avalé le mien, t'avaleras celui de Rooster. Je crois que tu lui as cassé le nez et qu'il a le droit d'être payé pour ça. « Tout ce que tu me fourres dans la bouche, tu vas le perdre », a dit Andy. Boggs l'a regardé comme s'il était fou, m'a raconté Ernie. « Non », a-t-il dit lentement, comme si Andy était un gosse stupide. « Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu fais un truc comme ça et je te plante 20 cm d'acier dans l'oreille. Pigé ?»« J'ai compris ce que tu disais. Je ne crois pas que tu m'aies compris, moi. Tu peux m'enfoncer ton rasoir dans la tête, c'est possible. Mais tu devrais savoir qu'une grave blessure au cerveau fait simultanément uriner, déféquer et mordre. » Il leva les yeux vers Boggs avec son petit sourire, m'a dit Ernie. Comme si les trois types discutaient avec lui d'action et d'obligation alors qu'il l'écrasait de toute leur force. Tout juste comme s'il portait un de ses costumes trois pièces de banquier au lieu d'être à genoux dans un placard à balai crasseux avec son pantalon baissé et du sang lui coulant entre les cuisses. « En fait, » a-t-il ajouté, « je crois que le réflexe de morsure est parfois si violent qu'il faut desserrer les mâchoires de la victime avec un levier ou un pied de biche. » Boggs n'a rien mis dans la bouche d'Andy ce soir-là. Fin février 1948, non plus que Rooster McBride. Et pour autant que je sache, personne ne l'a jamais fait. Ce qu'ils ont fait, tous les trois, c'est le battre jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort. Et ils se sont retrouvés tous les quatre avec une peine de mitard. Andy et Rooster McBride ont fait un détour par l'infirmerie. Combien de fois cette équipe s'en est-elle prise à lui? Je ne sais pas. Je pense que Rooster en a perdu le goût assez vite. Avoir le nez plâtré pendant un mois peut avoir ce résultat. Et Box Diamond a abandonné l'été suivant, d'un seul coup. Chose étrange, on a trouvé Box sévèrement battu dans sa cellule, un matin du mois de juin, où il n'avait pas montré son nez à l'appel du petit déjeuner. Il n'a pas voulu dire qu'il avait fait, ni comment ils étaient arrivés jusqu'à lui, mais grâce à mon commerce, je sais qu'on peut obtenir à peu près n'importe quoi d'un maton en lui graissant la patte, sauf une arme pour un détenu. À l'époque, ils étaient mal payés, et ils le sont encore. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de fermeture électronique, pas de circuit vidéo intérieur, pas d'interrupteur général contrôlant des sections entières de la prison. En 1948, chaque bloc avait son porte-clés. Très facile d'acheter un gardien pour introduire quelqu'un, voire deux ou trois bons hommes, dans le bloc, et oui, même dans la cellule de Diamond. Bien sûr, un boulot comme ça a dû coûter un tas de fric. Pas d'après les critères de l'extérieur, non. L'économie de la prison est à échelle réduite. Quand on est là depuis un certain temps, un billet de 1 dollar dans la main vous fait l'effet d'un billet de 20 dehors. D'après moi, si Boggs s'est fait avoir, ça a coûté un sacré paquet à quelqu'un. 15 dollars, disons, pour le tourne-clé, et 3 ou 4 pour chacun des gros bras. Je ne dis pas que c'était Andy Dufresne, mais je sais qu'il a apporté 500 dollars en entrant et qu'il était banquier à l'extérieur. C'est-à-dire un type qui sait mieux que nous comment l'argent peut donner du pouvoir. Et je sais aussi qu'après la raclée, trois côtes cassées, un œil ensanglanté, un dos tordu, une hanche déboîtée, Box Diamond l'a laissé tranquille. En fait, après ça, il a laissé tout le monde tranquille. Il est devenu comme un orage d'été, beaucoup de bruit pour rien. On peut dire, même, qu'il est devenu une demi-chienne. Voilà comment finit Box Diamond, un type qui aurait pu finir par tuer Andy s'il n'avait pas pris des mesures pour l'en empêcher, si c'est lui qui les a prises. Mais cela n'a pas été la fin des ennuis d'Andy avec les chiennes. Il y a eu un bref hiatus et ça a recommencé, moins durement pourtant, et moins souvent. Les chacals aiment les proies faciles, et il y en avait de plus faciles qu'Andy. Il s'est toujours battu, je me souviens de ça. Il a dû comprendre que si on se laisse faire une seule fois sans se battre, ça leur facilite les choses pour la fois suivante. Alors Andy avait de temps en temps des traces de coups au visage. Et il y a eu cette histoire des deux doigts cassés 6 ou 8 mois après la raclée de Bugs. Oh oui, et un jour, à la fin de 1949, il s'est retrouvé à l'infirmerie avec une pommette brisée, probablement par un bon morceau de tuyau dont on avait entouré le bout avec un chiffon. Comme chaque fois il se défendait, il passait son temps au mitard. Mais je ne pense pas que l'isolement était aussi dur pour Andy que pour d'autres. Il savait se supporter lui-même. Les chiennes, c'était une situation à laquelle il s'était adapté. Et puis, en 1950, ça s'est presque entièrement arrêté. C'est une partie de mon histoire, et j'y viendrai au moment voulu. À l'automne 1948, Andy est venu me voir un matin dans la cour et m'a demandé si je pouvais lui avoir une demi-douzaine de toiles à pierre. « Qu'est-ce que c'est que ces trucs ?» ai-je demandé. Il m'a dit que c'était le nom que donnaient les minéralogistes à des toiles à polir de la taille d'un torchon. En tissu épais, avec un côté fin et un côté gros, le côté fin comme du papier de verre très fin, l'autre presque aussi abrasif que de la laine d'acier industrielle. Andy en avait aussi un paquet dans sa cellule. Mais ce n'est pas moi qui le lui avais fait passer. J'imagine qu'il l'avait fauché à la blanchisserie. Je lui ai dit qu'on pouvait faire affaire, et j'ai fini par les faire prendre à la même boutique d'où j'avais fait venir le casse-pierre. Cette fois, je lui ai compté mes 10% habituels, pas un sou de plus. Je ne voyais rien de mortel ni même de dangereux à une douzaine de torchons de 20 cm de côté. Des toiles à pierre, pourquoi pas? C'est environ 5 mois plus tard qu'Andy m'a demandé si je pouvais lui avoir Rita Hayworth. La conversation a eu lieu dans l'auditorium, pendant un film. Maintenant, on nous projette des films une ou deux fois par semaine, mais à l'époque, c'était une fois par mois. D'habitude, les films qu'on avait comportaient un message d'une morale exaltante, et celui-ci, The Lost Weekend, n'échappait pas à la règle. La morale en était « Il est dangereux de boire ». Un message où nous pouvions trouver quelque réconfort. Andy a manœuvré pour se mettre à côté de moi. Et vers le milieu du film, il s'est un peu rapproché et m'a demandé si je pouvais lui avoir Rita Hayworth. À vrai dire, ça m'a plutôt amusé. Voilà un type habituellement froid, calme, maître de lui. Et ce soir, il était sur des charbons ardents, quasiment honteux. Comme s'il me demandait un paquet de préservatifs ou un de ces gadgets doublés en peau de mouton qui sont censés accroître le plaisir solitaire, comme disent les magazines. Il avait l'air sous pression, au point de faire exploser son radiateur. « Je peux la voir », ai-je dit. « Ça baigne, calme-toi. Tu veux la grande ou la petite ?» À l'époque, Rita était ma petite amie. Quelques années avant, c'était Betty Grable. Et il y avait deux tailles. Pour $1, vous pouviez vous payer la petite Rita. Pour $2,50, vous aviez la grande. 4 pieds de haut et femme jusqu'au bout des ongles. La grande, a-t-il dit sans me regarder. Je vous le dis, c'était un vrai spectacle. Il rougissait comme un gosse qui veut aller voir du porno avec la feuille de route de son grand frère. Tu peux le faire? Ne t'en fais pas, bien sûr je peux. La peau de l'ours, c'est comme si c'était moi. Le public a applaudi et poussé des cris de joie quand les insectes ont jailli du mur pour attaquer Ray Milland en pleine crise de délirium.
Dans combien de temps?
Une semaine, peut-être moins. Ok. Mais il avait l'air déçu, comme s'il espérait que j'en avais une sur place, cachée dans mon froc.
Combien?
Je lui ai donné le prix de gros. Je pouvais me permettre de perdre sur une affaire. C'était un bon client, avec son casse-pierre et ses toiles. En plus, il se tenait bien. Plus d'un soir, pendant qu'il réglait ses problèmes avec Bugs, Rooster et les autres, je me suis demandé quand il prendrait son marteau pour défoncer le crâne d'un type. Les affiches tiennent une grande place dans mon commerce, juste après la gnôle et les cigarettes, avec une demi-longueur d'avance sur les joints. Dans les années 60, ça a explosé dans tous les sens. Et plein de gens ont voulu des posters funky comme Jimi Hendrix, Bob Dylan, celui d'Easy Rider. Mais c'est surtout des filles, une reine des pin-up après l'autre. Quelques jours après, un chauffeur de la blanchisserie avec qui je faisais des affaires à l'époque m'a fait entrer plus de 60 affiches, la plupart de Rita Hayworth. Vous vous souvenez peut-être de cette image, moi oui, c'est sûr. Rita est habillée, en quelque sorte, d'un maillot de bain, une main derrière la tête, les yeux mi-clos, la bouche rouge et charnue, boudeuse, les lèvres entr'ouvertes. Ça s'appelait Rita Hayworth, mais ça aurait pu s'appeler femme en chaleur. L'administration de la prison est au courant du marché noir, au cas où vous vous poseriez la question. Bien sûr. Ils en savent probablement autant que moi sur mon commerce. Ils le supportent parce qu'ils savent qu'une prison est comme une grande cocotte minute et qu'il faut des soupapes quelque part pour lâcher la vapeur. De temps en temps, ils font une rafle et on m'a mis 2 ou 3 fois à l'isolement. Mais quand il s'agit d'affiches, ils se contentent d'un clin d'œil. Vivre et laisser vivre. Et quand on trouve une grande Rita Hayworth dans la cellule d'un taulard, on prétend que c'est venu par la poste, envoyé par un parent ou un ami. Bien sûr, tous les paquets des amis ou parents sont ouverts et le contenu inventorié. Mais qui va vérifier l'inventaire pour un truc inoffensif comme une affiche de Rita Hayworth ou d'Ava Gardner? Quand on vit dans une cocotte minute, on apprend à vivre et laisser vivre.
Sinon quelqu'un vous taille un sourire tout neuf juste au-dessus de la pomme d'Adam.
On apprend à faire des compromis. C'est encore Ernie qui a passé l'affiche de ma cellule, la 6, à celle d'Andy, la 14. Et c'est Ernie qui m'a rapporté un mot de l'écriture soignée d'Andy. Un seul mot. Merci. Un peu plus tard, quand on nous a mis en rang pour la bouffe du matin, j'ai jeté un œil dans sa turne et j'ai vu Rita au-dessus de sa couchette, en maillot de bain. Dans toute sa gloire, une main derrière la tête, les yeux mi-clos, ses lèvres douces et satinées entr'ouvertes. Au-dessus de sa couchette, là où il pouvait la voir pendant la nuit, après l'extinction des feux, à la lueur des lampes à sodium de la cour. Mais à la lumière vive du matin, son visage était balafré de traits noirs, l'ombre des barreaux de la fenêtre. Maintenant, je vais vous raconter ce qui est arrivé à la mi-mai 1950 et qui a fini par conclure 3 ans d'escarmouche entre Andy et les chiennes. C'est le même incident qui l'a ensuite fait transférer de la blanchisserie à la bibliothèque, où il a passé ses heures de travail jusqu'à ce qu'il quitte notre heureuse petite famille au début de cette année. Vous avez pu remarquer que jusqu'ici, ce que je vous ai raconté m'est venu par oui-dire. Quelqu'un a vu quelque chose et me l'a dit, et je vous le dis. En certains cas, même, j'ai simplifié. Car en fait, j'ai répété, et je répéterai, des informations de 4e ou 5e. Ici, c'est comme ça. Le téléphone arabe est une réalité, et il faut s'en servir pour rester au courant. En plus, bien sûr, il faut savoir séparer les grains de vérité de la paille des mensonges, rumeurs et vœux pieux. Vous avez peut-être aussi dans l'idée que je décris plus une légende qu'un homme, et je dois avouer qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Pour nous, les longues peines, qui avons connu Andy pendant de nombreuses années, ce type avait quelque chose de fantastique, un aspect magique et mythique, si vous voyez ce que je veux dire. Cette histoire que je rapporte, comme quoi Andy a refusé de sucer Box Diamond, fait partie de ce mythe. Comment il a continué à se battre avec les chiennes en fait partie aussi, et comment il a été muté à la bibliothèque. Mais il y a une différence, importante. J'étais là, et j'ai vu ce qui s'est passé, et je jure sur le nom de ma mère que tout est vrai. Le serment d'un condamné pour meurtre ne vaut peut-être pas grand-chose, mais croyez-le, je ne mens pas. Andy et moi étions désormais en assez bons termes. Ce type me fascinait. En repensant à l'épisode des affiches, je vois qu'il y a quelque chose que j'ai négligé, peut-être à tort. 5 semaines après qu'il eut cloué Rita au mur, j'avais oublié toute cette histoire et j'étais passé à d'autres affaires. Ernie m'a glissé une petite boîte blanche à travers les barreaux de ma cellule. « De la part de Dufresne », a-t-il dit à voix basse, sans rater un coup de balai. « Merci, Ernie. » Et je lui ai passé un demi-paquet de camels. « Qu'est-ce que diable ça peut être ?» me suis-je demandé en ôtant le couvercle. À l'intérieur, il y avait plein de coton blanc. Et en dessous, j'ai regardé longtemps. Pendant quelques minutes, c'était comme si je n'osais pas y toucher, tellement c'était joli. Au trou, il y a une telle pénurie de jolies choses, c'est à pleurer. Et le pire, c'est que ça ne semble pas manquer à la plupart des mecs. Il y avait deux morceaux de quartz dans cette boîte, tous deux soigneusement polis et taillés comme des branches de bois flotté. À l'intérieur, on voyait des petits éclats de pyrite, comme des paillettes d'or. S'ils n'avaient pas été si lourds, on aurait pu en faire une belle paire de boutons de manchette, tant ils se ressemblaient. Combien de travail avait-il fallu pour ces deux œuvres ? Des heures et des heures après l'extinction des feux, j'en étais sûr. D'abord la taille, éclat après éclat. Ensuite le polissage, presque interminable. Et enfin la finition avec l'étoile. En les regardant, je ressentais la chaleur que ressent n'importe quel homme ou femme en voyant un bel objet, une chose fabriquée et travaillée. C'est ce qui nous distingue des animaux, je crois. Et je ressentais aussi autre chose. Une sorte de respect admiratif devant l'obstination massive de cet homme. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai su jusqu'où allait cette obstination.